Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez centrale pour les multinationales, non? Comment elles font pour piloter leurs activités loin, très loin? Je pense notamment à l'Asie-Pacifique, une région hyper dynamique.
Comment s'assurer que tout fonctionne bien, à des milliers de kilomètres?
Alors pour ça, on va s'appuyer sur une étude assez fouillée qui a regardé 86 multinationales françaises et surtout le rôle de leurs sièges régionaux. Vous savez, les HQ, là. Regional Headquarters.
Notre idée, c'est de décortiquer un peu comment la création de ces RHQ, ça transforme la manière dont les boîtes contrôlent, coordonnent leurs filiales. On va parler centralisation, formalisation, socialisation aussi. Alors allons-y, qu'est-ce qui change vraiment concrètement quand on met en place un RHQ?
Eh bien, la première chose, et l'étude le confirme bien, c'est que oui, les grandes multinationales françaises qui sont vraiment présentes en Asie, elles créent ces RHQ. Ce n'est pas juste pour faire joli, hein.
D'accord.
Ils deviennent de vrais centres névralgiques, en fait, des points de commande essentiels pour la région.
Ok, donc ils existent, ils sont importants, mais alors est-ce que ça veut dire que le siège mondial, le QG principal, quoi, il perd du pouvoir?
On pourrait penser un peu intuitivement que si on délègue au niveau régional, ben, y a moins de contrôle central, non?
C'est une très bonne question et la réponse, elle est un peu plus subtile. L'étude montre que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien non. Mettre en place un RHQ, ça ne diminue pas forcément la centralisation au niveau du siège mondial pour toutes les décisions.
Ah bon, le QG, il garde quand même la main sur certaines décisions clés.
Stratégique, global.
Ah d'accord, donc le grand chef ne lâche pas tout.
Exactement. Mais, et c'est là que ça devient crucial, une part importante du pouvoir de décision, du contrôle opérationnel, on va dire, elle est bien transférée au RHQ.
Les chercheurs, ils parlent de régionalisation, centralisation, ou régio-centralisation, pour reprendre leur terme. En gros, le RHQ, il devient le centre décisionnel pour sa zone.
Pour sa région, oui.
Voilà. Mais toujours, bien sûr, sous une certaine supervision du siège mondial. C'est un équilibre, en fait.
Régio-centralisation, j'aime bien ce terme. Ça suggère un partage intelligent des rôles, plus qu'un simple transfert de pouvoir, quoi. Et à part les décisions, qu'est-ce que ça change d'autre, ces RHQ?
Mais un autre point vraiment important que l'étude met en avant, c'est la socialisation. Les RHQ, ils deviennent des sortes de hubs sociaux, de carrefours humains.
Ah oui?
Oui, imaginez un peu. Vous avez des expatriés qui sont basés là, les managers locaux qui prennent du galon, les gens du siège qui viennent en visite, les experts pour des missions courtes. Tout ce monde se croise, échange, crée des liens informels, des réseaux. C'est très puissant pour l'intégration, pour diffuser la culture d'entreprise aussi.
Donc le RHQ, c'est un lieu pour créer du lien, une culture un peu commune à l'échelle de la région?
Ça dépasse les simples lignes sur un organigramme, alors.
Tout à fait. Et ça se voit aussi, par exemple, dans le fait qu'il y a plus de formations organisées pour le personnel local, souvent pilotées ou même délivrées par le RHQ.
Il y a un vrai investissement sur les compétences locales.
D'accord. Et si ces liens humains, cette culture partagée via le RHQ, prennent plus de place, est-ce que ça veut dire qu'on a moins besoin, comment dire, des règles écrites très strictes, des procédures formelles, du reporting lourd qui remonte direct au siège mondial, la formalisation, comme on dit?
C'est exactement ça, oui. L'étude suggère que les entreprises avec un RHQ ont tendance à réduire ce contrôle formel direct entre le siège mondial et les filiales locales.
Ah.
La supervision, elle passe davantage par le RHQ, qui lui peut utiliser des méthodes peut-être plus souples, plus adaptées au contexte local, voyez? Le contrôle devient moins bureaucratique vu de loin.
Et c'est différent pour les boîtes qui n'ont pas de RHQ? Les plus petites, peut-être?
Oui, l'étude le montre assez clairement. Les PME, par exemple, qui sont internationalisées mais qui n'ont pas forcément la taille ou les moyens pour un RHQ dédié, elles, eh bien, elles dépendent beaucoup plus de ces systèmes de reporting très formels, très structurés. C'est leur moyen principal pour que le siège sache ce qui se passe.
Logique, oui. Dernière question qui me vient là. Les expatriés. Si on a un RHQ bien costaud, avec plus de managers locaux formés et intégrés, est-ce qu'on envoie moins d'expatriés depuis la France, par exemple?
Eh bien là encore, c'est un peu contre-intuitif. L'étude montre que non, en fait. La présence d'un RHQ ne fait pas forcément baisser le nombre d'expatriés dans ces grandes entreprises.
Ah non?
Non, elle continue d'en envoyer pour des postes jugés clés, stratégiques, mais, et c'est un mais très important, elle nomme aussi plus de managers locaux à des postes importants. Et elles investissent dans leur formation, comme on disait.
D'accord.
C'est une stratégie mixte, en fait. On utilise les expatriés pour certaines choses et on développe très activement les talents sur place.
Fascinant. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment une combinaison des deux. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, comment on pourrait décrire le rôle de ces RHQ en Asie-Pacifique, finalement?
Ben, On pourrait dire que ce sont des sortes de niveaux de pilotage intermédiaires, mais très sophistiqués. C'est pas juste une délégation simple, c'est cette fameuse régiocentralisation dont on parlait.
Très active. Concrètement, ça veut dire plus d'interactions humaines, plus de socialisation, plus de formation au niveau régional, moins de lourdeur administrative directe avec le siège.
Oui.
Mais tout ça en gardant une supervision stratégique depuis le centre et en utilisant intelligemment les expatriés et les talents locaux.
C'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on pourrait penser au départ, en fait.
Tout à fait. Et puis, il faut aussi garder en tête les limites, bien sûr. L'étude, elle porte sur des entreprises françaises et dans ce contexte très particulier, très dynamique de l'Asie-Pacifique. Les résultats seraient peut-être différents ailleurs ou pour des entreprises d'une autre culture.
C'est une excellente précision, merci. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Avec ce jeu d'équilibriste complexe, là, entre le global, le régional, le local, comment ces RHQ pourraient encore évoluer? Surtout dans des régions qui bougent aussi vite que l'Asie-Pacifique. Est-ce qu'on va voir émerger de nouvelles formes de coordination, peut-être? Encore plus agiles, plus spécialisées? Voilà, de quoi réfléchir.